C'est ludique, c'est l'heure de jouer.
Et oui, tous les jours à 9h30, c'est l'heure de jouer. Vous venez d'atterrir aujourd'hui sur l'île de Narak, une île où se cachent les ruines d'anciennes civilisations mystérieuses disparues depuis longtemps. Quels secrets allez-vous pouvoir découvrir? Pour le moment, vous n'en savez pas plus. Mais une chose est sûre, vous ne serez pas seul. D'autres groupes arrivent, à vous désormais de sortir vainqueur. Les ruines de Narak est un jeu dit expert de construction de decks et de placement d'ouvriers pour 1 à 4 joueurs. Alors dans Narak, chaque joueur incarne une équipe d'explorateurs. Les joueurs jouent des cartes à tour de rôle, déplacent leurs ouvriers et explorent l'île pour gagner des ressources et des points de victoire. Et vous savez quoi? Le joueur avec le plus de points de victoire à la fin du 5ème tour remporte la partie. Quand vous placez le grand plateau, vous avez vraiment l'impression de partir en exploration et d'avancer petit à petit sur l'île. Une manche se décompose en plusieurs tours de jeu jusqu'à ce que l'ensemble des explorateurs soient fatigués et retournent au campement pour passer une bonne nuit. À vrai dire, ils ne sont que deux. Dans les ruines perdues de Narak, vous allez jouer vos cartes de plusieurs manières. Alors soit elles seront utilisées pour le déplacement de vos archéologues, grâce aux chaussures, à la voiture, au bateau, à l'avion, en haut des cartes, soit pour l'effet de la carte. Tout d'abord, il y a la construction de decks. Les joueurs commencent avec un deck de 6 cartes identiques. Deux cartes nous donnent la ressource boussole, qui sert à avancer et acheter des cartes artefacts. Deux cartes nous donnent la ressource pièce pour acheter des objets. Et deux cartes sont des cartes peur, qui pénaliseront le joueur d'un point de victoire qui, si elles ne sont présentes dans le deck à la fin du jeu, vous font perdre des points. Alors au fur et à mesure que les joueurs explorent l'île, ils auront la possibilité d'acheter des cartes objets ou artefacts sur une piste en haut du tableau. Ces cartes sont ajoutées au deck de chaque joueur. Alors chose importante, l'effet des artefacts est immédiat, alors que les objets vont en dessous de votre pioche. Le deuxième mécanisme de jeu utilisé dans Narak est le placement des ouvriers. Vous disposez de deux ouvriers représentant vos explorateurs. Ils vous permettront de gagner des ressources et des idoles, explorer de nouvelles ruines, mais aussi de rencontrer de dangereux gardiens. Et si vous ne les battez pas, ils vous pénaliseront avec des cartes de peur, car ils sont laissés sans surveillance. À votre tour, vous devez faire donc une action principale, résumée grâce à une aide de jeu, parmi explorer un site, découvrir un nouveau site, maîtriser un gardien, acheter un objet, acheter un artefact, jouer une carte, rechercher et passer son tour. Je ne vous ai pas parlé de rechercher. Grâce à votre loupe et à votre carnet, vous allez avancer sur la piste recherche en donnant des pierres rouges, des flèches, des pièces ou des tablettes que vous avez récupérées avant. Et vous pourrez gravir comme ça les étages et gagner des assistants ou des boussoles. Lorsque tous les joueurs ont passé, la manche se termine et vous récupérez vos explorateurs. Ceux qui sont sur un site avec un gardien récupèrent une carte peur dans la défausse, malheureusement pour eux. On mélange cette dernière, puis on la place sous sa pioche. Alors, en affinant votre deck, en utilisant les cartes que vous achetez et en déplaçant vos deux ouvriers et en faisant des recherches, vous accumulerez une belle collection de points de victoire. Il faudra améliorer votre deck pour rester compétitif, mais ça sera dur de choisir. Et vous devrez également réfléchir à l'endroit où vous placez chacun de vos ouvriers à chaque tour. Les ressources sont rares, les cartes puissantes sont chères et ça coûte beaucoup pour explorer de nouveaux lieux. Faire les bons choix seront primordiaux. Car croyez-moi, ce n'est pas un jeu où vous allez cumuler comme ça les pièces d'or et les boussoles. Les ruines de Narak est un jeu d'une grande profondeur mais accessible. Avec Dune Imperium, ce sont certainement les deux meilleurs jeux experts de ce premier semestre. En tout cas, j'ai eu un gros coup de cœur. Les ruines de Narak, un jeu édité par Yellow et dont les auteurs sont Min et Elwen, comptez un peu moins de 60€ pour vous le procurer, mais croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Pour rappel, ce jeu a été nommé au Spiel. Et quelque chose me dit qu'il pourrait être également lors du prochain As d'Or. À suivre en tout cas. Allez, d'ici quelques instants, on va retrouver Ludo du Labo des Jeux qui va nous parler de Small Island Maroon 5 pour la musique Beautiful Mistake.
Le monde du jeu se donne rendez-vous à la radio.
Et c'est Ludo aujourd'hui qu'on va retrouver. Bonjour Ludo.
Salut Matt.
Ça va bien?
Ouais, ça va, un peu enrhumé, mais...
Un petit peu enrhumé.
Ça va bien.
On va parler de Small Island, alors après les ruines perdues de Narak, on va rester sur une île, en tout cas.
Exactement, et avant de vous parler, on va faire un petit jeu. Je vais te demander de fermer les yeux.
Ouais.
Et là, de te concentrer un petit peu.
Ouais.
Et là, est-ce que tu entends le bruit des vagues sur les rochers?
Ah ouais.
Entre le cri des mouettes,
ouais,
dans le ciel.
Et j'entends le vent aussi, Ludo, parce qu'il y a beaucoup de vent chez nous aujourd'hui.
L'odeur du goémon frais sur la plage.
C'est possible.
Bon, Bon, écoute, même si c'est pas le cas, on va tous partir en voyage en bateau à la découverte de Small Island. Small Island, c'est un jeu qui est sorti en 2018.
D'accord.
Alors pour certains, c'est récent.
Ouais.
D'autres, c'est déjà un vieux jeu, comme on dit.
C'est clair.
Ça passe vite. C'est un jeu de pose de tuiles d'Alexis Allard, un des deux auteurs du prochain jeu chez notre ami toulousain.
Welcome to the moon, tu veux dire, Blue Cocker.
Ouais, voilà, to the moon, exactement. Et c'est illustré par Aurélie Guarino. Alors, c'est pour 1 à 4 explorateurs. C'est à partir de 8 ans et c'est pour des voyages d'environ 30 minutes.
Très bien.
Ce jeu a été édité par un éditeur belgo-toulousain qui s'appelle Mushroom Games.
D'accord.
Selon l'auteur, le jeu a été inspiré par sa grande pratique du grand jeu que tout le monde connaît quand on écoute ses ludiques, c'est Carcassonne.
Ah bah oui, forcément.
Et il emprunte aussi un petit gameplay à un jeu qui est encore vieux, c'est La Guerre des Moutons. Aussi un jeu de pose de tuiles.
Mm-hmm.
Je vous invite celui-là à le découvrir parce qu'il est vraiment sympa. C'est un jeu donc du coup familial, de pose de tuiles, c'est hyper malin, et puis il y a plein d'intérêts. Ce qu'on appelle des interactions, on va dire, indirectes par rapport aux joueurs. Small Island, l'idée, c'est de faire le plus de points de prestige à la fin de la partie.
D'accord.
Pour faire ça, en fait, le gameplay est extra simple. On va piocher une tuile et poser une tuile.
D'accord.
À son tour de jeu.
Ouais.
Alors, bien sûr, comme dans Carcassonne, les poses de tuiles vont avoir donc des petites contraintes. Il faut que ça colle en fait, hein, que ça fasse un paysage cohérent.
D'accord.
Donc du coup on va avoir des côtes, d'îles, on va avoir des tuiles de mer, etc.
On va se croire un petit peu en Bretagne finalement alors.
Hein ?
On va se croire un petit peu en Bretagne avec ce jeu.
Ouais, exactement. Bon là c'est un archipel, on va dire, il y a peut-être un petit peu plus de soleil, mais mais on n'est pas loin, on n'est pas loin. Je sais que la Bretagne est assez ensoleillée aussi.
Ah oui, beaucoup.
Donc voilà, on est vraiment en voyage. Avec une mécanique et des règles qui sont très très simples. Donc on pose une on pioche une tuile dans une rivière de tuiles et ensuite parmi les trois qu'on va avoir en main, on va en poser une. Au préalable, pour pouvoir faire des points de prestige pendant la fin d'une manche, il va falloir donc sélectionner un objectif personnel qu'on va avoir aussi trois objectifs au début de partie.
D'accord.
On va en mettre un de côté pour la manche suivante qu'on gardera, en fait, on se dit bah, peut-être que celui-là, tiens, en fonction de la physionomie du jeu, je vais me le garder, je vais me le mettre de côté. Il y en a un autre qu'on va défausser et qu'on pourra retrouver après, et il y en a un qu'on va garder pour notre manche. Sur une tuile, donc une carte objectif, qu'est-ce qu'il y a ? Il va y avoir deux choses importantes, des prérequis et puis des points qu'on va pouvoir faire.
D'accord.
Alors des prérequis, ça peut être, bah, par exemple, il faut que sur cette île, il y ait tant de ressources de ce type-là. Et si c'est le cas, je marquerai tant de points en fonction du nombre de ressources qu'il y a.
D'accord.
Donc il va falloir, en fait, jouer un peu pour sa paroisse, pour essayer de créer des îles qui vont fonctionner avec notre objectif. Ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'il est quand même relativement stratégique. Parce que s'il n'y avait que ça, bon, ça serait quand même un fort jeu qui ressemblerait à Carcassonne.
Oui, bien sûr.
Là, en l'occurrence, il va y avoir plusieurs petites choses qui sont assez intéressantes. Déjà, passer un certain nombre de tuiles qu'on aura posées, n'importe quel joueur va pouvoir mettre fin à la manche en posant son bateau si on joue à 4 joueurs, et soit son bateau ou un bateau neutre quand on joue à moins.
D'accord.
Voilà. Poser son bateau va mettre fin à la manche. Alors attention, le bateau, il va aussi scorer à la fin de la partie en fonction du nombre d'encres qu'il va y avoir autour de lui. Il y a des encres sur les tuiles, on va voir qu'il y a aussi d'autres choses. Et là, du coup, ça met fin. Le joueur va mettre fin à la manche. Et ce joueur-là, il va avoir la priorité pour pouvoir poser sur les îles qui l'intéressent, ses petites maisons.
D'accord.
Pour pouvoir, en fait, scorer en fonction de sa carte de score. Attention, sur les îles, sur certaines tuiles, il y a des petites cases pour poser des maisons et c'est pas régulier. C'est-à-dire que celui qui met fin à la manche va quand même avoir la priorité de pouvoir choisir les îles auxquelles il va pouvoir scorer. Les autres n'auront peut-être pas la place de
scorer.
Donc, le côté stratégique et le côté malin, un petit peu putassier, je te l'accorde, va être dans une question de timing. À quel moment ? Il y a un côté un petit peu stop ou encore.
Ouais,
dans ce jeu. À quel moment est-ce que je mets fin à la manche ou est-ce que cette île-là, on va continuer à la faire grandir un petit peu parce qu'il me manque telle ou telle chose dessus et qui va me faire augmenter mes points. Mais le problème, c'est que plus on attend, plus les îles grandissent peut-être. Et donc, du coup, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'une fois qu'on a posé une maison sur une île, on ne pourra plus scorer dessus jusqu'à la fin de la partie.
D'accord, ah ouais.
Est-ce que je score l'île à ce tour-là, ou est-ce que j'attends parce que je sais que j'ai mis de côté un objectif pour le tour prochain qui me fera marquer plus de points. Tu vois un peu ?
Il me tente bien celui-là, je ne connaissais pas.
Dans du familial, mais dans du familial avec un degré de stratégie qui est juste pile poil pour convenir à des familles qui ont déjà peut-être joué à Carcassonne et qui en veulent un petit peu plus.
Ouais.
Mais ça ne s'arrête pas là. Petite anecdote personnelle.
Ouais.
En 2017, pendant le festival de Parthenay, donc Nicolas, qui est mon copain et éditeur de Mushroom Games, et Alexis, qui est un copain et donc l'auteur du jeu,
d'accord,
nous invite en soirée avec mon pote Roger à une petite séance de test de proto.
Ouais.
Là, on découvre Small Island. Et ils sont face à un dilemme. C'est-à-dire qu'en fait, ils aimeraient apporter au jeu une espèce de double niveau. Une partie familiale,
ouais,
un mode familial et également un mode expert, afin de pouvoir coller à un marché un peu plus large. Et ils ont en main, en fait, des objectifs qui, à l'époque, doivent être associés par les joueurs. C'est-à-dire, d'un côté, on a des cartes avec des prérequis,
mm-hmm,
de l'autre côté, on a des cartes qui font des points de victoire, et les joueurs, en fait, en début de manche, doivent associer les deux pour créer un objectif unique. Et ça leur paraît un peu compliqué. Et moi et Roger, en fait, on fait une petite séance de test et à un moment donné, on leur dit, écoutez les gars, c'est simple, si vous voulez familiariser un petit peu le jeu, le rendre public famille, vous créez en fait des objectifs qui sont déjà associés.
D'accord, ouais.
Comme ça, les joueurs en fait n'auront juste qu'à choisir les objectifs qu'ils veulent garder et mettre de côté et défausser et vous gardez l'association pour avoir encore plus de choix pour le mode expert. Et bingo.
Le mode
famille, ils ont travaillé après dessus, hein. C'était juste une idée. Mais
finalement, donc, tu as participé un peu à l'élaboration du jeu, alors
Un tout petit peu. Moi et mon pote, un tout petit peu. Et c'est vrai que c'était intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on trouve sur les tuiles? Parce qu'il y a énormément de choses différentes pour faire des points de victoire. Et ça, c'est hyper intéressant. On va retrouver des ressources qui vont être sur les tuiles. Alors, il y a des fleurs de lotus, des fruits du dragon, des feuilles d'arca.
On n'est pas tout à fait en Bretagne, là, du coup.
Non, voilà, je te l'ai dit. Bon, il y a un petit... Et puis, il y a aussi des temples d'une civilisation perdue. Donc, tout ça peut nous faire marquer des points. Et les joueurs, en plus, pour te dire que c'est un peu interactif aussi, ils ont, en début de partie, des petits jetons de joker double face qui peuvent, s'ils veulent, à leur tour de jeu... poser sur une île pour changer une ressource.
D'accord. Ah ouais,
j'ai une fleur de lotus qui est sur une tuile. Bim, moi, ça m'intéresserait d'avoir une feuille d'arca. Eh ben, je vais poser sur la fleur de lotus un petit jeton feuille d'arca. Parce que peut-être que mon objectif, c'est il faut que j'ai plus de feuilles d'arca que de fruits du dragon, par exemple, sur cette île-là.
Ouais, selon les objectifs.
Et du coup, c'est ce genre d'objectif qu'on va trouver, des majorités, des égalités, il faut qu'il y ait tant de ressources identiques, etc. etc. Donc il y a énormément de façons différentes de scorer. Donc du coup, forcément, ça fait des parties complètement différentes, ne serait-ce qu'en mode famille, parce que vous allez avoir plein de... l'archipel qui va être construit par tout le monde va forcément être toujours différent. Et puis, avec tous les objectifs qu'on va avoir en main, à chaque fois, ils ne seront pas au même timing de la partie, donc ils peuvent être tout à fait différents. Et puis, avoir la main sur le jeu aussi, en mettant fin précocement, par exemple, à une manche, ça joue aussi pas mal sur les points de victoire. Et je te parlais de la guerre du mouton. Guerre des moutons, à un moment donné, quand on arrive plus ou moins à retrouver en fait, la couleur des moutons des adversaires qui, au départ, est cachée, et qu'on sait qu'il faut marquer un nombre de points par rapport à un enclos qui est fermé, on va avoir tendance à vouloir agrandir l'enclos des autres pour qu'ils ne puissent jamais le fermer et donc jamais le scorer. Alors là, ce qui est intéressant, par exemple, à Small Island, ce qu'on peut faire, c'est essayer de raccorder des îles entre elles.
D'accord. Ah ouais.
Avec
tu peux...
des tuiles. Et du coup, ben, une fois qu'une île est raccordée, si quelqu'un avait déjà scoré sur le petit bout d'île qui était en bas à gauche et qu'on arrive à le raccorder avec la grosse masse de terre qui est en haut à gauche, eh ben, la personne ne pourra plus scorer sur cette île-là. Donc, il faut faire attention. Ouais. Ça peut être joué d'une manière très très vilaine.
Ouais, un petit jeu d'enfoiré quand même.
Et du coup, j'aime bien ça. Ouais, j'aime bien. On retrouve la patte d'Alexis, de toute façon, dans ce type.
Ouais, bah oui, mais Alexis était venu, je l'avais eu à la radio par rapport à Tanuki Market, et c'est vrai qu'on
exact.
Est dans un truc un petit peu d'enfoiré, ce genre de jeu-là.
Ouais, exactement.
Et ben...
bon, du coup, Small Island, c'est un jeu de tuiles, c'est super profond, qui bénéficie donc du coup d'un mode solo en plus, qui tient bien la vague, parce que c'est Alexis Allard, et on sait qu'il est hyper fort. Il a fait tous les welcome en mode solo,
ouais.
Donc c'est vraiment très très bon. Et puis, en fonction d'où on joue à 2, 3 ou 4, les sensations ne vont pas être les mêmes. Il est vraiment très très bon à 2 également. C'est élégant, les graphismes vraiment sont à tomber par terre d'Aurélie Guarino. Ils sont vraiment très très beaux. La boîte est magnifique aussi. Il y a des petites surprises aussi en plus dans la boîte. Et vraiment, bon, bah voilà. Quoi,
on voit que tu aimes ce jeu, Ludo, hein.
Ouais, je l'aime, et pas parce que j'y ai apporté mon petit grain de sable, cette belle plage ludique, mais parce que c'est un jeu qui est hyper complet.
Ouais.
Il est encore trouvable, je pense, chez certains ludicaires. Il va arriver que actuellement sur le marché américain.
D'accord, ah oui.
Et dans plein de pays. Après, vous pouvez le trouver même en anglais ou en italien, parce qu'il est textless. Donc, du coup, il n'y a pas de texte dessus, donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et puis, il y a en plus la petite cerise sur ce gâteau. Il y a un mode grand explorateur dans le jeu qui va vous demander, en fait, de pouvoir débloquer des cartes. Et oui, on est en 2018. Je ne sais pas si tu vois.
Ouais, ouais.
Ça fait 3 ans.
3 ans déjà.
Et donc, y avait déjà ce petit truc de débloquer du matériel supplémentaire en réussissant à faire ce qu'on appelle des succès, en fait, dans le jeu.
D'accord.
Et du coup, bah, voilà, ça rajoute encore de la rejouabilité et de la différence de parties dans le jeu.
Eh ben, merci beaucoup, Ludo, pour cette explication de Small Island.
Avec plaisir.
On se retrouve la semaine prochaine.
Ça marche.
On parlera plutôt de King Domino, je crois, la semaine prochaine.
Ouais, ça va être un truc comme ça, avec des hommes préhistoriques.
Le grand retour de King Domino.
Ouais, ça roule.
Salut Ludo, à la semaine prochaine.
Bonne journée à tous.
Au revoir. Salut.